père aux séries.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour la dernière de la semaine. Expert en série, oui, qui débute sur Canal M. Ben, ça nous est sûrement tous arrivé à un moment donné ou l'autre d'avoir à quitter son emploi ou du moins d'y penser. Ça demande beaucoup de courage, quitter son emploi, surtout quand ça fait plusieurs années qu'on est installé. C'est notre zone de confort, hein? On a un salaire qui entre, on connaît les collègues, on connaît la dynamique, on connaît les tâches également. Et ça peut générer certaines craintes d'envisager de quitter tout ça et de passer à d'autres aventures. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait, même si on aime notre boulot, on se dit « Ah, même le salaire pourrait être un peu plus élevé, ah, mais mon patron pourrait être un petit peu plus compréhensif, ah, les tâches pourraient être plus stimulantes. » Mais on s'y accommode. Mais parfois, ce n'est pas possible parce que notre santé nous révèle qu'on n'est vraiment plus au bon endroit, parce que les relations deviennent tendues, que ce soit avec certains collègues, que ce soit avec le patron, parce que soudainement, nos tâches ont été modifiées, changées, ça ne nous convient plus, c'est plus possible pour nous de répondre à ces exigences-là, ou parce que on s'ennuie finalement et qu'on manque de stimulation. En fait, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on peut penser à quitter d'emploi. On parle de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est une grosse question que j'entends souvent dans mon entourage. Quand on devrait quitter l'emploi et comment le faire également sans y laisser notre santé? Tout ça avec Éric Beaulieu, lui qui est conseiller en orientation. Merci d'être là, Éric.
Ça fait plaisir.
Une question, j'imagine, à laquelle vous avez souvent à répondre parce que c'est une interpellation de bien des gens.
Oui. Laquelle question?
Ben, quand quitter son emploi, comment bien le faire?
Oui, la question « quand quitter son emploi », je peux pas dire qu'elle est posée telle quelle. Par contre, les gens que je vais rencontrer vont justement être sur ce souci-là, c'est-à-dire je suis plus certain d'être à la bonne place, il s'est passé telle situation, ça remet en question des choses, ou simplement j'ai jamais vu le sens dans mon travail, puis j'ai le goût de commencer à en retrouver dans ma vie, parce que on s'entend que le travail, c'est la majorité de notre temps éveillé, se passe au travail. Alors, on peut bien en entendre parler à gauche et à droite.
Oui, on passe beaucoup de temps au boulot, en effet.
Exactement.
Alors, est-ce qu'il y a des signaux qui ne trompent pas?
Oui, bien, c'est un terme qui ne fait pas plusieurs années qui existe, mais le présentéisme, c'est l'idée du présentéisme, en anglais, il parle du burn-in, avant de parler du fameux burn-out. On se présente au travail, mais bon, on est là sans être là. Y a comme une présence absente. C'est paradoxal à dire, mais c'est un peu ça quand même. Et donc, il y a des gens qui vont vivre ça très passivement. Il y a des gens qui vont être plus irritables et qui vont plus s'exprimer. On a toutes sortes de personnalités. Des gens qui refoulent, donc qui gardent ça en dedans. D'autres qui ont tendance à l'explosion. Donc, la polarité implosion-explosion, ça varie d'une personne à l'autre. Des fois, c'est un petit peu plus équilibré. Mais bon, alors des indices, il peut en avoir plusieurs. On parle Ben, c'est ça, vous parliez tantôt, c'était intéressant quand vous présentiez le topo, vous parliez de tâches, donc les tâches, soit que ces tâches-là nous apportent quelque chose ou pas, les conditions, c'est vaste, c'est les relations avec les collègues, c'est le pécunier, c'est les avantages sociaux, c'est très vaste, fait que moi, quand je reçois des clients, c'est un peu ce travail-là qu'on fait d'abord, un bon bilan pour essayer de comprendre. Est-ce qu'on a une part majoritaire de tâches qui font l'affaire, qui répondent à un certain souci d'avoir du sens dans ce qu'on fait, versus pas en avoir? Et dans les conditions, est-ce qu'on a une majorité de conditions qui sont finalement irritables versus pas? Puis qu'est-ce qu'on fait quand on constate ça? Ça, c'est là que ça se corse, c'est là que ça se joue. Quand je commence à prendre conscience de ces enjeux-là, parce que ça, c'est la première étape, hein? Il faut d'abord que j'en prenne conscience. Puis si on revient au présentéisme, souvent les gens deviennent un peu zombies. Puis là-dessus, j'aimerais peut-être, tu sais, les choix qu'on... Tu sais, la première question, quand j'avais pris connaissance de vos questions, c'est quoi les signaux qui nous indiquent qu'on n'est pas à la bonne place?
Qui était ma première question,
Qui était la première question, d'ailleurs. Hein, on va y revenir. On y va en mode circulaire. J'espère que les auditeurs ne seront pas trop désorientés de ce fait. sais, être à la bonne place. Je veux dire, les premiers choix qu'on fait dans notre vie, c'est quoi? On est en secondaire 5, on nous dit qu'il faut faire un choix pour le cégep ou une profession, peu importe. Il y en a quelques-uns qui ont une idée déjà assez claire, mais habituellement, autour de nous, ils sont minoritaires. La plupart des gens, c'est on y va en mode faut fonctionner, donc il faut faire un choix, il faut aller au cégep, il faut une job. Alors, est-ce que la première question, c'est de dire, dans l'emploi, est-ce que j'ai vraiment choisi au départ cet emploi-là ou finalement je l'ai pris parce que trois petits points, il fallait que ci, il fallait que ça? Hein, moi, j'appelle ça le faux que qui foque. C'est-à-dire qu'il faut payer le loyer, certes, il faut payer ses comptes, certes. Mais si on fait ce travail-là sur une base d'obligation, il est fort probable qu'on va souvent changer d'emploi parce que tôt ou tard, on a besoin de sens dans ce qu'on fait.
Donc, est-ce que c'est la première question à se demander quand soudainement... soudainement, ça n'arrive pas de façon nécessairement
soudaine, mais
on réalise, oh là là, je suis peut-être pas au bon endroit, je suis pas si bien que ça dans mon boulot. Pourquoi j'ai choisi ce travail-là à la base?
Et voilà. Et ça, c'est la grosse question qui est souvent démystifiée. Qui pour beaucoup de monde, c'est pas une question... Tu sais, on se dit tout le temps se donner le choix, mais cette marge de manœuvre-là, quand on est en mode, il faut payer le loyer, j'ai une famille à nourrir, est-ce qu'on se donne vraiment le choix? Alors, des fois, donc, sur cette base-là, on va maintenir un travail pas satisfaisant pour répondre à des obligations. Puis là-dessus, ça peut mener, on parle du présentéisme qui mène au burn-out, voire même dépression. Puis j'ai le goût de vous lire, c'est très, très court, un conte d'un philosophe qui va peut-être bien, les auditeurs vont peut-être un peu se reconnaître dans des situations qu'ils ont pu déjà vivre, soit au travail ou soit ailleurs, mais qui montre bien un peu la dynamique qui s'installe quand on se met à accumuler, encaisser des choses. Alors, ça y va comme ceci. Imaginez une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède, la grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue à grimper, l'eau est maintenant chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, mais ça la fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau, cette fois, devient vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle s'est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La température continue à monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir sans jamais avoir fait quelque chose pour s'extraire de la marmite. Si la grenouille avait plongé directement dans l'eau bouillante, elle aurait immédiatement donné un coup de patte adéquat pour être éjectée de la marmite. Cette expérience montre que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte.
Ça vient d'où, ça, Éric
Boulieu? Olivier Clair, un philosophe, écrivain. Je vous ai donné des ressources. On les mettra sur le site
du Canal M. Éric Boulieu, vous avez étudié en philosophie avant de devenir conseiller en orientation. J'imagine que c'est ce qui déteint sur ces lectures. Oui. J'aimerais ça revenir au présentéisme parce que pour des gens qui ont déjà entendu le terme, ça peut sembler clair. Pour des gens qui n'ont jamais entendu le terme, et vous l'avez mentionné, c'est relativement nouveau, ça peut être un peu mélangeant. Quels sont les comportements qui traduisent du présentéisme?
Donc, un comportement de démotivation, c'est-à-dire je suis pas animé dans ce qui m'occupe dans mon travail. Le syndrome du dimanche soir, ça c'en est un typique. Ah. Oh non, je travaille demain. C'est pénible. C'est un sentiment des fois même de panique presque pour certaines personnes. Donc, c'est ça, une fois dans le travail, la démotivation. On n'est pas engagé, on fonctionne. On fonctionne sans plus. L'être humain, je veux dire, notre corps a besoin de nutriments. Tous les matins, il faut déjeuner pour aller faire sa journée. Notre corps exige des nutriments. Moralement, l'être humain, psychologiquement, l'être humain a aussi besoin de nutriments, quelque chose qui le nourrit. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'acclimatent malheureusement à ne pas se nourrir d'un travail et le travail est tout simplement fonctionnel. Fonctionne, répond à des attentes, des exigences.
À des besoins qui sont se nourrir, payer le loyer.
Oui, mais on est dans une société qui exige de plus en plus, un monde du travail qui met de plus en plus l'emphase sur la productivité. Produire de cette façon-là où l'efficacité est de plus en plus dans le décor sur une base de non-sens, ça explique la pandémie, puis je pèse mes mots, de burn-out, qui en Occident est en train de devenir la première cause d'invalidité au travail.
Oui, oui, oui.
On ne parle pas juste au Québec, là. Hein? C'est un phénomène occidental.
Vous parlez de symptômes physiques. Ben, en fait, vous parlez de burn-out. Moi, je l'associe à des symptômes physiques qui sont également mentaux, là. Tout ça est lié, évidemment. Donc, on peut avoir des symptômes ou des alertes physiques également si on est en train de s'épuiser au travail.
Tout à fait. Il y en a pour qui ça va être l'insomnie, d'autres vont somatiser à travers des maux de tête, l'appétit. Ça va varier. Tu sais, il ne faut pas dire « Ah, donc, je dors plus », ça veut dire que...
Non, mais
c'est une combinatoire qui va varier d'une personne à l'autre. Alors, c'est difficile de dire si vous avez A plus B plus C, ça égale burn-out. Il faut juste être attentif. Puis, je veux dire, un des premiers symptômes, quand vous êtes mal à l'aise face à une situation, face à quelque chose, le premier symptôme, il se passe dans mes tripes. Hein? Ça serre, nos viscères se squeeze. Il y a quelque chose... C'est subtil, des fois, c'est pas grand-chose. Mais la question qui tue ou qui ressuscite, c'est qu'est-ce que je fais quand je vis des situations qui malaisantes, inconfortables? Si dans mon travail, par exemple, on vient de me lancer une tâche pour laquelle je me sens incompétent, puis là... Je veux répondre à ce qu'on me demande, mais en même temps, je me sens pas capable. Puis là, est-ce que parce que j'ai besoin d'obéir puis de répondre à ce qu'on s'attend de moi, je vais le faire quand même, tout en me sentant très inconfortable de pas être capable de bien le faire, ou je vais oser lever la main, parler au patron, oui, je veux peut-être bien faire cette nouvelle tâche-là, mais j'aimerais ça avoir un peu de coaching. Est-ce que tu pourrais me payer une formation autour de ça, patron? Normalement, les patrons, les employeurs ont des budgets pour justement la formation continue des employés. Fait qu'en principe, un patron qui n'est pas ouvert à votre demande devrait lever un drapeau rouge pour vous, c'est-à-dire je lui manifeste un souci de compétence, il me dit fais-le pareil, puis tant pis. Donc, si on cumule plusieurs exemples comme ça avec un patron qui n'est pas réceptif à notre feedback par rapport à notre souci de bien faire notre travail, un drapeau rouge majeur, puis je suis pas amateur de baseball, mais après trois prises, trois tentatives...
C'est out.
Après trois tentatives de justement nommer les problèmes, ben là, à un moment donné, il faut peut-être justement passer un autre appel.
Ça m'amène à réfléchir, Éric Beaulieu, sur l'importance de se connaître. Parce que quand on est mal à l'aise dans une situation ou qu'on vit une grande période de stress, certains, ça va se manifester par un mal de tête. D'autres, moi, c'est les mâchoires qui se crispent.
Justement, ça varie.
Alors là, c'est mon signal. OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement bien. Ça va dans ma nuque, dans mes épaules. Je le sais. Et c'est important aussi, et ça revient à les choix qu'on a faits et qu'on fera, qui continuent à nous habiter, l'importance de se connaître. Et ça fait partie du processus avec un conseiller en orientation également.
Je dirais que c'est le gros... les gens viennent me voir, vite, je veux un nouvel emploi, tout ça, puis ça presse. Je sympathise avec leur urgence d'agir, de sauter à un autre appel. Mais le gros travail qu'on fait, c'est un travail de redécouverte de soi. Je leur dis souvent en blague, « Ah, c'est-tu parce que t'as foxé ton cours de « Qui suis-je 101 » au secondaire? » Puis là, ils me regardent, « Quoi? Quel cours? » Ben justement, justement, l'école, on apprend à répondre à ce qu'on s'attend de nous. Fondamentalement, là, au-delà des matières, on nous apprend à répondre à ce qu'on s'attend de nous. Alors, depuis le début, depuis la tendre enfance, tout ce qu'on a appris à faire, c'est répondre à ce qu'on s'attend de nous. À quel moment je me suis donné l'occasion de m'arrêter? Puis d'essayer de me décortiquer, de me comprendre, de me donner une espèce de livre d'instruction. On en a pour nos montres, nos téléphones, nos voitures, des livres d'instruction épais comme ça et tout. Quand est-ce que j'ai pris le temps d'un peu plus systématiser qui suis-je? Ça se peut-tu qu'on soit aussi complexe qu'un téléphone cellulaire, voire même diablement plus? Alors donc, prendre cette rencontre, six rencontres, dépendant des approches dans mon domaine, il faut prendre plusieurs rencontres. On ne peut pas régler une démarche, surtout quelqu'un qui traverse une impasse. Laisser cet espace-là à la redécouverte de soi, c'est fondamental. Puis on parle d'au moins 5 rencontres. Là.
Et non seulement on est plus complexe qu'un téléphone intelligent, mais on est sans cesse en mouvance. C'est-à-dire que ce que j'ai été il y a 5 ans n'est plus ça. J'ai évolué, j'ai appris des choses. Mes rêves se sont modifiés complètement, mes connaissances, mon entourage également. Donc, mes besoins, évidemment.
Oui, puis le mythe du bon choix, souvent, j'ai des clients plus jeunes, tout ça, puis souvent ils sont aux études ou viennent de les finir, puis là, je veux être sûr d'avoir fait le bon choix. On évolue. Le bon choix, c'est celui qui, pour l'instant, dans la mesure où j'ai bien fait le tour des considérations de pourquoi je choisis cet emploi-là, pourquoi je m'investis là, va influencer qui je suis, puis va éventuellement m'amener à voir le monde autrement. Puis peut-être, après avoir fait un bout de chemin, 5 ans, 10 ans dans un domaine, je vais avoir le goût de faire un changement.
Mm-hmm.
Et ça, pourquoi pas? Puis là, est-ce que les gens vont dire, ah, dans le fond, il y a 10 ans, j'ai pas fait le bon choix? Non, c'est juste que les 10 dernières années que j'ai faites dans ce domaine-là m'a fait évoluer. Et là, je m'aperçois que mes besoins ont changé, puis il faut que je fasse un changement. Puis comme vous le disiez en intro, c'est vertigineux des fois. Hein? C'est confortable quand on a son emploi. On paye toutes les contraintes, se paye et tout. Puis là, on décide de faire un changement. C'est très vertigineux.
Ouais.
Fait que c'est d'autant plus important d'être au clair avec pourquoi je le fais,
avec
puis au nom
soi-même.
De quoi je le fais.
Ouais.
On cherche souvent des garanties à l'extérieur. OK, là, donne-moi le domaine qui va être gagnant, qui va me permettre de bien gagner ma vie, tout ça. On va y venir, mais d'abord, ces garanties-là, il faut qu'elles soient fondées à l'intérieur de soi. Puis c'est ça, le travail d'orientation. De bien fonder, fixer les paramètres identitaires pour que la personne, ensuite, soit capable d'aller voir dans le monde où est-ce que je me retrouverais le mieux? Où est-ce que je peux mieux faire ce que je suis dans quelque chose? Donc, faire ce qu'on est dans le travail, c'est l'idéal. Alors,
Rick Beaulieu, c'est tellement intéressant, mais on va prendre une pause pour pas que ça soit trop vertigineux pour les gens qui nous écoutent. On revient dans quelques instants. Marianne Paquette qui est de retour en compagnie d'Éric Beaulieu, expert en série qui se poursuit sur Canal M. Quand devrait-on quitter son emploi? Une grande question. Évidemment, on ne répondra pas à tout. On ne pourra pas aborder tous les aspects. Peut-être que si ça vous sonne des cloches comme conversation, vous aurez envie d'aller plus loin. Il y aura des ressources sur le site du Canal M. Également, peut-être que l'envie de rencontrer un conseiller en orientation se fera sentir. Vous vous dites, est-ce que j'ai les moyens? Ça coûte beaucoup de sous de l'heure, mais c'est possible d'avoir accès à un conseiller en orientation, Éric.
Oui, exactement. Dans les Carrefour Jeunesse Emploi, si on est âgé entre 16 et 35 ans, c'est gratuit. faut juste demander de rencontrer un conseiller d'orientation. Pratiquement la totalité de ces centres d'aide pour les jeunes ont un conseiller ou une conseillère d'orientation. Si on est prestataire de chômage, d'aide sociale, Emploi Québec peut nous fournir un conseiller d'orientation aussi.
Ah bon?
Dans les écoles, c'est plus problématique. Il y en a, mais on en a un pour 2000 élèves, un pour 3000 élèves. Ils ne peuvent pas faire de miracle, là. C'est pas évident parce que, comme je le disais tantôt, c'est un travail qui demande du temps. Juste vous donner un exemple. Moi, quand j'ai un client, entre chaque rencontre, il y a un bon 5 heures de travail. Puis on fait 7 rencontres en tout, en moyenne. C'est un travail exigeant. Donc, c'est un travail de reconnexion à soi pour se comprendre, se décortiquer, comprendre ce qui nous inspire, se comprendre aussi nos défis personnels. C'est-à-dire, des fois, il y a des choses qui nous suivent d'un emploi à l'autre, puis on vit des situations problématiques, puis on ne s'aperçoit pas qu'on sabote
ouais.
hein, un peu inconsciemment des choses. Fait que c'est impossible. Puis ça, je veux dire, c'est pas évident à conscientiser. Là.
Ouais. Ou qu'on recrée des modèles. Peut-être pas efficace.
Oui, ou on change d'emploi, puis bon, moi, je suis tanné de cet emploi-là, je m'en vais ailleurs, puis là, on revient à un autre emploi, puis coudonc, c'est donc bien bizarre, on vient de vivre des situations qui ressemblent donc bien à l'emploi qu'on venait de quitter. Alors là, ça, c'est l'indice, peut-être, de dire, oups, il y a peut-être des choses qui m'appartiennent aussi qu'il faut que j'aille revoir dans ma façon de composer.
Se rendre responsable un petit peu de ce qui
nous arrive. Responsabiliser aussi, oui, oui. L'environnement a toujours sa part, mais la personne doit aussi faire le tour de ses variables.
Également, www.ericbeaulieu.com.
CO
pour conseiller orientation, c'est ça?
Oui, bien, c'est nouveau. Ça fait un an que ça existe. Puis j'ai dit, tiens, mais c'est les gens qui ont parti ça, c'est pas du tout dans l'idée de conseiller d'orientation. Mais moi, je l'ai récupéré, oui, dans ce sens-là.
On glissera, bien sûr, votre site web sur le site du Canal M également.
Merci.
Bonne, mauvaise raison de quitter son emploi. On a commencé à beaucoup en parler là, en première partie d'émission, bien sûr. Mais j'imagine que des fois, on est moins bien guidé pour différentes raisons.
Oui, oui. Mais bonne ou mauvaise raison, on a nos raisons, OK? Puis si j'étais pour dire, bien, voici la série de bonnes raisons pour quitter son emploi, voici la série de mauvaises réponses, je ne suis pas à l'aise d'embarquer dans ces paramètres pipés d'avance. Pourquoi? Parce que chaque personne a justement à comprendre sa conjoncture, sa manière de vivre, son rapport heureux, malheureux au travail. C'est pour ça que c'est complexe comme décortication à faire dans le travail qu'on fait avec nos clients.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a pas une réponse magique pour tous, mais il faut que je commence à prendre conscience des choses qui sont problématiques pour moi, comment je compose avec... etc. Est-ce que je suis conscient de mon potentiel?
Mm-hmm,
tantôt, je parlais de faire ce qu'on est. Je veux dire, si dans le travail, notre potentiel ne s'incarne pas dans des fonctions, des tâches qui nous occupent, il y a toute une panoplie de conséquences qui s'engendrent.
Des fois, c'est les autres qui nous font des miroirs. C'est-à-dire, quand on entend « Hey, t'as tellement de potentiel, qu'est-ce que tu fais ici? Je te verrais tellement ailleurs. » On entend parfois ce genre de commentaires-là qui nous font se poser des questions. Après ça, je sais bien que c'est à nous de revenir et de dire « Mais non, je suis bien ici, c'est ici que je me réalise. » Mais c'est bouleversant, ça, le regard ou les commentaires des autres.
Absolument. Je trouve que c'est des bons déclencheurs, d'ailleurs. Le regard de l'autre, est-ce que ça va me confirmer dans ce que je suis ou ça va questionner ce que je suis, ce que je fais? Très intéressant. Donc, si moi, les commentaires des autres, ça vient m'irriter, ça m'en veut un autre indice, peut-être qu'il y a quelque chose d'indicateur d'un changement envisagé, là. Parce que si je ne suis pas bien, je n'assume pas ce que je fais. Il y a des choses à comprendre derrière ça.
Ouais.
Alors, le regard de l'autre comme... Mais le problème avec le regard de l'autre, par contre aussi, c'est que les gens s'orientent beaucoup en fonction de ce regard de l'autre-là. Donc, autant ça peut être un déclencheur de questionnement intéressant, autant d'un autre côté, beaucoup de monde, comme je le disais tantôt à l'école, on apprend à répondre à ce qu'on s'attend de nous. Fait que notre rapport à l'autorité, pour revenir dans les négociations, quand ça ne va pas avec un patron, qu'est-ce qu'on fait?
Le drapeau rouge.
Le drapeau rouge dont on parlait tantôt. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, est-ce que j'ose aller m'asseoir? Ou est-ce que j'ai un rapport à l'autorité qui fait que moi, quand ça va pas ou quand l'autre me dit des choses puis ça fait mon affaire, je refoule, j'accumule. Hein, on a deux genres de polarité. Je refoule, j'accumule ou j'explose, j'engueule puis ça règle rien. Souvent, dans la communication, on dit que la manière de s'y prendre est plus importante que le contenu qu'on va dire. Alors, si je suis émotivement tendu, stressé puis j'ai trop accumulé puis là, je me présente à mon patron, ça se peut qu'au-delà d'entendre mes mots, il ressente une charge avec laquelle il ne voudra pas composer, puis il va me tasser.
Il faut choisir son moment aussi.
Il faut choisir son moment, il ne faut pas accumuler. Puis il faut bien comprendre aussi que le travail pour un patron, c'est d'abord ce qu'on a à accomplir, d'abord et avant tout. Fait que stratégiquement, je dis toujours à mes clients, ce serait peut-être intéressant que tu commences, si tu as abordé ton rapport au travail avec ton patron, de faire le tour des tâches dans lesquelles tu t'accomplis, puis celles qui, finalement, ça ne va pas. Parce que s'il n'y a pas une majorité de tâches dans lesquelles ton potentiel est ton rendez-vous, c'est un peu délicat après d'aller demander au patron, bien là, j'aimerais ça que mon emploi aille mieux. Ouais, mais si tu n'as pas un minimum de tâches que tu as choisies parce que tu aimes ça, bien là, il y a un problème. Parce que si après tu dis, oui, mais donne-moi un meilleur salaire pour comme compenser le fait que je ne suis pas heureux, il y a une contradiction. Puis le patron, je disais, tu ne l'aideras pas à t'aider si sur le fond, tu n'es pas à ta place.
Oui. Aussi, à un moment donné, Éric Beaulieu, on a fait notre introspection. On sait pourquoi on veut changer d'emploi. On a appris à se connaître. On a parlé à notre patron. Notre choix est clair. Mais là, comme on le disait tout à l'heure, il y a le vertige qui s'installe. Et les compromis. Aussi qu'on se dit, suis-je prêt ou prête à changer de lieu de travail ou à changer de salaire ou
retourner aux études. Des compromis. Je dis souvent à mes clients, puis ça, ils l'aiment pas, celle-là. Choisir, c'est aussi renoncer. Comme si choisir, c'est toujours d'en accumuler toujours plus. Puis non, à un moment donné, c'est ça. Il y a des compromis à faire. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le choix que je m'apprête à faire, le changement que j'envisage faire, j'ai suffisamment analysé la situation pour croire que je vais être plus satisfait dans le futur éventuel choix? Alors ça, c'est toute une réflexion profonde qu'il faut faire, qui demande, moi, quand je finis une démarche, c'est pas vrai que ça se finit dans le bureau. J'amène le client à les valider, faire des rencontres exploratoires avec des gens qui travaillent peut-être dans le milieu envisagé, puis force jusqu'à quel point ce qu'ils se sont fait comme idée, au-delà de toute la démarche qu'on a fait, ça demeure théorique, il faut aller vérifier sur le terrain. Et puis ça, c'est engageant aussi, fait que jusqu'à quel point la personne va avoir cette volonté, ce goût de s'engager dans des démarches exploratoires, au lieu de juste dire, je veux un nouvel job, je m'inscris tout de suite dans un nouveau programme, c'est réglé. Les gens, des fois, ne se donnent pas le temps de valider. Puis ça, c'est super important pour justement pas dire, en bout de ligne, mon Dieu, finalement, j'ai fait un choix impulsif, puis je me suis trompé. Puis,
j'ai fait un choix pour le salaire, par exemple, mais finalement, c'est pas ça qui est important pour moi.
C'est ça. Le salaire, c'est une variable parmi tant d'autres. Donc, le sens doit aussi faire partie. C'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à atteindre parmi toutes ces variables, là, d'où les réflexions qu'il faut se donner la peine de faire.
Oui. Merci beaucoup, Éric Beaulieu. C'était vraiment très, très intéressant et ça donne envie de vous reparler très bientôt.
Ça me fera plaisir.
D'aller visiter le www.éricbeaulieu.co. On glissera bien sûr tous les liens sur le site du Canal M. Merci encore.
Merci.
Martin Dupuis à la mise en onde, Marianne Paquette au micro, qui vous invite à entrer en communication avec nous, différents moyens, paquette@canalm.ca ou le 1-800-361-0635, poste 220 par téléphone. Toujours agréable de vous entendre. On se donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Bye-bye.